Il est l'heure de retrouver l'émission Pour la dignité avec Régis Coulanges, une émission sur les droits humains avec Amnesty International. Aujourd'hui, eh bien, pour cette nouvelle année, Régis Coulanges a choisi de nous donner les bonnes nouvelles d'Amnesty. C'est tout de suite après ce générique. Et bonjour Régis Coulanges.
Bonjour Odile. Bonjour à tous. Voilà. Bonne année. Hein. Espérons que ce soit une année favorable aux droits humains. Ça changerait un peu. Voilà. Alors, Stan, pour cette émission, j'ai décidé de vous donner des bonnes nouvelles. Les victoires que nous avons remportées en 2023, grâce à la force de notre mouvement, puisque nous sommes 10 millions de membres à travers le monde, et plus on sera nombreux, mieux on aura de résultats. Mais bien sûr, avant de commencer par ces bonnes nouvelles, je vais vous faire un petit bilan des 10 jours pour signer que nous avons organisés avec les antennes jeunes de Digne, ainsi que l'exposition en soutien à un artiste cubain condamné à 5 ans de prison pour avoir voulu exercer son art librement. Et puis je vous parlerai aussi de la loi asile et immigration qui vient de passer, et des réactions du président d'Amnesty France à cette loi française. Voilà, alors les 10 jours pour signer, nous l'avons organisé à la médiathèque de Digne pendant une semaine. Et en même temps, nous avions une exposition d'artistes locaux qui ont créé des œuvres en faveur d'un prisonnier cubain qui est un artiste autodidacte, qui s'appelle Luis Manuel Otero Alcantara et qui a été condamné à 5 ans de prison, comme je vous l'ai dit, pour avoir voulu exercer son art librement en s'opposant à un décret cubain qui dit que chaque œuvre doit d'abord passer par la censure avant d'être réalisée. Voilà, alors cet artiste cubain faisait partie des 10 cas des 10 jours pour signer de 2022. Nous avons... À l'intérieur de l'exposition, nous avions installé les 10 nouveaux cas des 10 jours pour signer de 2023. Donc ce sont 10 cas, 10 personnes, groupes de personnes dont les droits sont bafoués et pour lesquels tous les groupes d'Amnesty de par le monde entier essaient d'obtenir un maximum de signatures, de lettres de cartes, etc., d'envoi de cartes, pour les soutenir et obtenir leur libération ou des enquêtes, etc. Voilà, alors à Digne, nous avons fait donc dans la médiathèque pendant toute la semaine en même temps que l'exposition et nous avons obtenu 3057 signatures. Il y avait quelques pétitions aussi au cinéma pendant la semaine. L'antenne jeune du Pierre-Gilles de Gênes, qui a déjà plusieurs années, a obtenu 1143 signatures. Et l'antenne jeune d'Alexandra Davinel, qui est une toute jeune antenne, qui vient d'être créée. En fait, elle a été créée en même temps que les 10 jours pour signer allaient commencer. Donc, ils ont obtenu 615 signatures pour leur premier essai. C'est déjà pas mal. Voilà, et pour notre artiste, nous avons obtenu 80 signatures sur des cartes que nous avons envoyées au président cubain pour demander la libération de cette personne qui n'a rien à faire en prison. Voilà, donc c'est on était assez content de notre bilan entre le groupe de Digne et nos deux antennes jeunes. Voilà. Bon, alors vous avez bien sûr entendu parler de ce projet de loi asile et immigration. Hein. Après plusieurs reports et un rejet à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'asile et l'immigration a finalement été adopté le 19 décembre suite à un accord obtenu en commission paritaire mixte. Jean-Claude Samouillet, qui est le président d'Amnesty International France, pour lui, ce 22e texte en 30 ans est à marquer d'une pierre noire, parce qu'il dégrade plus que jamais les droits des personnes exilées. La dernière version du projet de loi est totalement contradictoire avec la volonté initiale annoncée par le président Emmanuel Macron de l'humanité à la fermeté, ce qu'il disait, il ne reste au final que de la fermeté et des atteintes graves aux droits, à la santé, à vivre en famille et à une vie digne des personnes exilées. Les rapports de force politiques à court et moyen terme ont pris le pas sur le respect du droit international et des engagements de la France. En résulte la suppression de la collégialité des juges à la Cour nationale du droit d'asile, gage d'impartialité, l'accès réduit aux aides sociales et à l'hébergement d'urgence, ainsi qu'au regroupement familial. Le délit de séjour irrégulier, contraire au droit international, a été restauré. L'aide médicale d'État, l'AME, dont la réforme très restrictive a été retirée du projet de loi, sera de nouveau menacée en 2024. La seule annonce dite de « justice » révélée par le gouvernement est un simple respect des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'interdiction de l'enfermement des mineurs, point sur lequel le gouvernement français était régulièrement sanctionné et qui ne sera effectif à Mayotte qu'en 2027. La désinformation et les clichés xénophobes qui bénéficient aujourd'hui en France de relais inédits ont abouti à ce que les migrations ne soient vues que comme une menace et un mal à combattre, ce qui est à la fois faux et intolérable. Ce projet de loi ne répond en rien aux enjeux actuels en termes de migration, documentés par les associations de terrain. Les mesures envisagées par le gouvernement vont rogner encore davantage les droits des personnes étrangères. Avec l'adoption de cette loi inique, le gouvernement et les députés ont franchi des lignes rouges historiques et gravissimes, portant atteinte aux personnes exilées. Voilà le communiqué de presse que vous pouvez lire sur amnesty.fr. On va maintenant écouter HK, « J'ai marché jusqu'à vous », une chanson justement sur les réfugiés.
Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore, j'en ai reçu plus qu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village en portant pour seul bagage des restes de rêves d'enfant, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts, les vastes plaines et les plateaux, les grandes villes comme en photo. Je marchais tant que j'ai pu, tant de fois je me suis perdu. Les trains, les camions, les bateaux, les coups de blues, les coups de couteau. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. Combien de pays traversés, combien de frontières dépassées, et me voilà, m'en voulez-vous, je n'avais pas pris rendez-vous. De mon histoire, vous savez tout, arrivé seul et sans le sou, mais surtout arrivé en vie. Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous. J'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. Je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu. Je vous en fais l'aveu de me voir un jour dans vos yeux. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai eu peur, je l'avoue. Mille fois j'ai fait ce rêve. Mille fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous.
Voilà, alors nous allons parler des victoires pour les droits humains obtenues en 2023 par les membres et sympathisants d'Amnesty International, qui montrent que le changement est toujours possible, bien que les droits humains sont gravement mis à mal dans de nombreux pays, y compris la France. Donc on a obtenu des résultats dans l'évolution de la législation concernant la peine de mort. En juillet, le Parlement du Ghana a voté en faveur de la suppression des dispositions prévoyant la peine de mort dans la loi de 1960 relative aux infractions pénales et la loi de 1962 relative aux forces armées, rendant le pays abolitionniste dans la pratique. Grâce à ces mesures, le Ghana fait un grand pas en avant vers l'abolition de la peine de mort. En Malaisie, les modifications législatives visant à abroger l'application obligatoire de la peine de mort sont entrées en vigueur le 4 juillet, abolissant la peine de mort complètement pour cette infraction. Les tribunaux vont pouvoir réexaminer les condamnations de plus de 1000 condamnés à mort et user de leur pouvoir discrétionnaire pour choisir entre la peine de mort ou des peines d'emprisonnement et, hélas, de flagellation, un châtiment cruel interdit par le droit international relatif aux droits humains et qui existe toujours en Malaisie. Le moratoire officiel de 2018 sur les exécutions étant toujours en vigueur, ces réformes pourraient permettre de réduire le nombre de condamnations à mort prononcées et représentent un jalon important sur la voie de l'abolition en Malaisie. Ces deux avancées sont une victoire pour tous ceux, dont Amnesty International, qui font campagne sans relâche pour reléguer ce châtiment cruel dans les livres d'histoire. Au mois d'août, dans le sillage du mouvement MeToo à Taïwan et du plaidoyer d'Amnesty International Taïwan pour mettre fin aux violences sexuelles en ligne, le gouvernement a adopté un amendement à la loi relative à la prévention des agressions sexuelles de Taïwan, exigeant que les fournisseurs de services et les plateformes Internet limitent la navigation ou suppriment les documents de pages web liés à ces crimes. En septembre, le président Joe Biden a annoncé la création du bureau de la Maison-Blanche pour la prévention de la violence par arme à feu qu'Amnesty International États-Unis appelle de ses voeux depuis 2018. En octobre, à l'issue de plus de 2 ans de négociations, le gouvernement de coalition autrichien s'est mis d'accord sur une loi relative à l'accès à l'information. Amnesty International Autriche soutient activement cette législation depuis le début. Bien que la loi proposée présente quelques lacunes, elle constitue néanmoins un pas en avant vers une plus grande transparence pour les autorités et les entreprises publiques. En octobre, en Argentine, le Congrès a approuvé la loi Olympia qui vise à prévenir les violences fondées sur le genre en ligne et à amener les responsables à rendre des comptes. Amnesty International Argentine demandait l'adoption de cette loi depuis plusieurs années après avoir publié des rapports révélant qu'une femme sur trois en Argentine a subi des violences en ligne. En décembre, après une décennie de campagne menée par Amnesty International et ses alliés, le 14 décembre, l'Union européenne est parvenue à un accord sur la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, texte novateur qui exige des entreprises opérant dans les pays de l'UE qu'elles remédient aux atteintes aux droits humains et aux dommages environnementaux liés à leur activité. La législation ne va pas aussi loin que le demandait Amnesty dans certains domaines, mais constitue néanmoins une avancée importante pour la responsabilisation des entreprises et offrira une nouvelle voie de recours aux personnes touchées par les violations des droits humains commises par les entreprises dans le monde entier. Voilà les évolutions qu'on a obtenues en 2023. On va maintenant écouter Guy Béard, dans sa chanson Le premier qui dit la vérité.
Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur, ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le monde doit s'enivrer de discours. Pas de vin, rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le t'as dit la vérité, il doit être exécuté. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Combien d'hommes disparus qui un jour ont dit non. Dans la mort propice, leurs corps s'évanouissent. On ne se souvient ni de leurs yeux, ni de leurs noms. Leurs mots qui demeurent chantent juste à l'heure. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce soir avec vous, j'ai enfin la règle du jeu. J'ai enfin la règle des moineaux, des aigles. Vous avez très peur pour moi, car vous savez que je risque vos murmures, vos tomates mûres. Ma chanson a dit la vérité, vous allez m'exécuter. Ma chanson a dit la vérité, écouter.
Alors maintenant, je vais vous parler des enfants et des jeunes. Alors, en Afrique du Sud, Amnesty International, avec l'appui du Fonds canadien pour les initiatives locales, a piloté le projet Digital Disruptor en 2023, qui a doté de jeunes militants de connaissances et des outils permettant de développer des campagnes dirigées par les jeunes. Ils ont également transformé un point névralgique de la criminalité et de la violence en un lieu où les habitants se sentent en sécurité pour s'informer et accueillir des dialogues et des solutions aux violences fondées sur le genre dans la région. Au mois d'août, le Conseil national de l'enfance et de l'adolescence du Paraguay a approuvé le programme national de prévention et de prise en charge des enfants et des adolescents victimes de violences sexuelles, qui était l'une des principales recommandations du rapport d'Amnesty International. Concernant l'éducation aux droits humains, qui est une priorité d'Amnesty International dans le monde entier, en novembre, après 2 ans de travail de plaidoyer, le Conseil de l'Europe a intégré les recommandations d'Amnesty International dans sa feuille de route 2024-2028 sur l'éducation aux droits humains. Immense victoire, la proposition d'Amnesty International de localiser l'éducation aux droits humains se trouve désormais au cœur de la nouvelle feuille de route, alors que le Conseil de l'Europe s'engage à s'adapter aux différents contextes locaux pour rendre l'éducation aux droits humains plus pertinente et plus accessible pour les jeunes de la région. Voilà, le groupe de Digne, nous faisons beaucoup d'éducation aux droits humains. Hein, on intervient dans les collèges, les lycées, dans les écoles primaires aussi. Et les antennes jeunes, on les incite aussi à faire de l'éducation aux droits humains dans les autres classes ou d'aller dans les collèges pour en faire. Parce que c'est vrai que la parole de jeunes passe souvent mieux que la parole de vieux adultes. Voilà, on va maintenant écouter Christina Romini dans sa chanson « J'aurais voulu ».
J'ai voulu enchanter le monde, ensoleiller le quotidien, faire la terre encore plus ronde et rendre leurs plumes aux Indiens. J'ai voulu nier les tempêtes, les vilainies du genre humain, pour pouvoir en habit de fête faire danser nos lendemains. J'ai voulu croire aux beaux discours, tissés de fleurs, brodés d'espoir, bardés d'amour. J'aurais voulu sauver la terre, j'aurais voulu semer le beau, j'aurais voulu sabrer la guerre, ouvrir des horizons nouveaux. J'aurais voulu aider ma mère à apprendre le chant des oiseaux, j'aurais voulu juste être un héros. J'ai voulu peindre tout en rose et prier Dieu qu'il croit en nous, en oubliant les ecchymoses et que le monde est à genoux. Faire la peau à la souffrance et tenter de sécher les pleurs, sans être un aigle aux ailes immenses, essayer d'être à la hauteur. J'ai voulu sur des mots velours tisser des fleurs, broder l'espoir, parler d'amour. J'aurais voulu comme un navire braver le fond des océans, j'aurais vendu plus d'un empire pour le sourire d'un enfant. J'aurais voulu pour mieux bâtir être la pierre et le ciment, j'aurais voulu juste être un géant. J'aurais voulu apprendre le chant des oiseaux, j'aurais voulu juste être un héros. Mais il faut se rendre à l'évidence et vaincre avec patience les pièges du chemin. Mais il faut, malgré l'indifférence, les doutes et la souffrance, se dire qu'on avance et qu'avec un peu de chance, ce sera mieux demain. Des oiseaux, j'aurais voulu juste être un héros. J'aurais voulu
Très belle chanson qui correspond bien à Amnesty International. Je vais maintenant vous parler de Libération qu'on a obtenue en 2023. Et finalement, c'est un peu le cœur du travail d'Amnesty, hein, d'écrire pour des personnes aux quatre coins du monde qui sont souvent oubliées et leur redonner espoir et arriver à les faire libérer. Alors voilà, en juin, les quatre défenseurs de droits humains dans l'affaire de Buyukada, c'est en Turquie, Tanek Kilik, İdil Ezer, Özlem Dalkiran et Günal Kürsün, condamnés en juillet 2020 pour des accusations infondées, ont finalement été acquittés. Leur libération intervient 6 ans après l'arrestation initiale de Tanek Kilik, qui était le président d'Amnesty International Turquie. Tous les quatre ont exprimé leur gratitude à Amnesty. Depuis 6 ans, nous avons vu les rouages de l'injustice à l'œuvre. Alors que les tribunaux successifs ont accepté comme des faits avérés les accusations sans fondement portées contre ces quatre courageux défenseurs des droits humains, ce jugement révèle le véritable objectif de ces poursuites à caractère politique, se servir des tribunaux comme d'une arme pour faire taire les voix critiques. En juin, Elias Bizimengu, 33 ans, journaliste et membre du mouvement de jeunes Lucha, a été arrêté à un poste de contrôle de l'armée et placé en garde à vue au début d'une mobilisation pacifique de 2 jours contre le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23. On est en République démocratique du Congo. Lorsqu'il a été jugé et condamné par un tribunal militaire, Amnesty International a lancé une campagne réclamant sa libération. Un tribunal civil l'a enfin acquitté et libéré en juin. En juillet, le défenseur des droits humains égyptien, Mohamed Bakr, a été libéré à la faveur d'une grâce présidentielle après 4 ans en détention arbitraire, uniquement en raison de son travail crucial en faveur des droits humains. Amnesty International s'est fortement mobilisé sur son cas dans le cadre de la campagne 10 jours pour saigner en 2022. Vous voyez que c'est important et on obtient des résultats. En juillet, les journalistes yéménites Mohamed Al-Sahlaï et Mohamed Al-Juned ont été libérés du centre de détention des services de sécurité et de renseignement dirigé par les Houthis dans la ville de Hodeida au Yémen, après avoir passé presque 5 années de détention. Ils ont été soumis à une série de violations flagrantes des droits humains, notamment une disparition forcée, des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements, et ont été privés du droit de consulter leur avocat. Amnesty International a milité pour leur libération depuis 2018. En juillet, Cho Van Cam, citoyen australien et militant vietnamien pro-démocratie, âgé de 73 ans, est rentré cette année à Sydney en homme libre. Il a été arrêté quelques heures après son arrivée au Vietnam en 2019 et condamné à 12 ans de prison pour avoir été membre d'un parti politique Viet Thanh. Amnesty International Australie le considérait comme un prisonnier d'opinion car il était détenu uniquement en raison de ses convictions politiques pacifiques. L'avocat de Cho Van Cam a remercié Amnesty International pour son soutien. Nous avons le plaisir de partager l'heureuse nouvelle. Monsieur Cho Van Cam est en bonne santé et est rentré dans sa famille aujourd'hui. Nous remercions les nombreuses organisations et personnes en Australie et partout dans le monde qui se sont mobilisées pour sa libération. Cette année, Jonah Mamombe et Cecilia Chimbiri ont été acquittés de l'une des accusations pesant sur elles. Elles avaient été arrêtées en 2020 pour avoir dirigé une manifestation anti-gouvernementale. Ce fut un grand pas en avant pour toutes les deux qui leur a permis de commencer à se remettre de leur calvaire. Dans le cadre de la campagne d'Amnesty Écrire 10 jours pour signer 2022, nos sympathisants ont agi en leur faveur et Amnesty International Zimbabwe les a soutenus tout au long de leur procès. Elles ont reçu des lettres dans le cadre de notre campagne 10 jours pour signer. Alors qu'elles lisaient les lettres de soutien, Jonah a déclaré « Merci infiniment à nos amis d'Amnesty International d'avoir écrit toutes ces lettres. Nous entamons maintenant notre voyage vers la guérison. » En août, on va s'arrêter là. On va faire une petite pause pour écouter mon cousin Jean-Guy Coulange dans sa chanson « Liberté » adaptée du poème de Paul Éluard, très célèbre.
« cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, de mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté.
Voilà, Liberté, nous l'écrivons sur nos lettres que nous envoyons partout dans le monde aux dirigeants qui retiennent injustement des prisonniers d'opinion. Alors je continue les bonnes nouvelles des libérations qu'on a obtenues en 2023. En Taïwan, Morrison Lee a enfin pu rentrer chez lui après avoir été accusé à tort de crimes mettant en péril la sécurité nationale de la Chine. Durant cette épreuve, il a été contraint de passer aux aveux à la télévision, une pratique courante en Chine dont se sert le gouvernement pour réprimer les militants et les défenseurs des droits humains. Amnesty International Taïwan a fait campagne en faveur de sa libération. En septembre, les condamnations de Musella Yapici et Yakan Altine, tous deux prisonniers d'opinion en Turquie, ont été annulées et ils ont été libérés. Musella et Yakan ont exprimé leur reconnaissance pour les lettres que les militants d'Amnesty International leur ont adressées pendant leur détention. Ils doivent désormais être rejugés l'an prochain. Les cinq prisonniers restants du groupe de Fezi sont toujours derrière les barreaux. Vous voyez que les lettres que nous envoyons régulièrement sont très importantes pour soutenir le moral de ces prisonniers qui semblent oubliés. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, des gens partout dans le monde pensent à eux et agissent pour leur libération. En 2020, le Sri Lankais Ramzik Razek a été incarcéré pendant 5 mois pour avoir publié un message critique sur Facebook. Amnesty International a lancé un appel en faveur de sa libération et son cas finalement a été retiré en septembre, lorsque la Cour suprême sri-lankaise a statué que ses droits fondamentaux avaient été bafoués. Elle a également ordonné à l'État de lui verser des dommages et intérêts. Kamzi Karout et Ebrahim Naroui, deux membres de la minorité opprimée Baloutch en Iran, qui ont été déclarés coupables et condamnés à mort en lien avec le soulèvement Femmes, Vie, Liberté de 2022, ont été libérés sous caution après que la Cour suprême a annulé leur déclaration de culpabilité et leur condamnation à mort. Kamiz Karout a été libéré en septembre et Ibrahim en octobre. Amnesty International faisait campagne depuis février 2023 pour que les peines capitales prononcées à leur encontre soient annulées. En octobre, au lendemain de la publication par Amnesty International d'une action urgente appelant à sa libération, le journaliste somalien Mohamed Ibrahim Osman Bulbul a été libéré sous caution à Mogadiscio. Il avait été interpellé au mois d'août uniquement pour avoir fait son travail. Quelques jours plus tard, le 11 octobre, le tribunal régional de Bandir a annulé toutes les charges pesant sur lui. Dans un message à Amnesty International, Mohamed a déclaré: j'aimerais vous exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien et votre mobilisation sans relâche en faveur de ma libération. Votre action urgente a vraiment joué un rôle énorme pour que j'obtienne ma liberté. Je suis extrêmement touché par votre solidarité. En octobre, détenu depuis le 7 janvier 2023, Mortaza Beboudi a été libéré le 18 octobre après les appels lancés par Amnesty International France. Après plus de 9 mois de détention en Afghanistan, le journaliste franco-afghan, âgé de 29 ans, va retrouver sa famille. Il a été accusé d'espionnage par les talibans qui, depuis qu'ils ont repris le pouvoir en août 21, ne cessent de restreindre radicalement les droits fondamentaux de la population. L'universitaire franco-iranien Fariba Adelka a été arrêté en juin 2019 en Iran. Grâce aux appels lancés par Amnesty International, elle a été libérée, elle a été remise en liberté et a pu rentrer en France en octobre. Elle avait été condamnée à 5 ans de prison pour mise en danger de la sécurité nationale, une accusation qu'elle a toujours niée. Lors de sa libération, Fariba a remercié Amnesty. « Maintenant, tout cela est derrière moi. Ce qui reste, ce sont toutes ces marques d'amitié et d'engagement, ces mobilisations de mes proches et d'inconnus. » La militante afghane pour l'éducation, Matuila Weza, a été remise en liberté le 26 octobre, après près de 7 mois passés en prison, pour avoir prôné le droit à l'éducation des filles et avoir critiqué la politique des talibans qui interdit aux filles de poursuivre leur scolarité en secondaire. Amnesty International a publié une action urgente et fait campagne jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Le frère de Matuila, cofondateur et directeur de PenPat, a déclaré « Nous sommes reconnaissants envers Amnesty International et ses 10 millions de membres qui nous ont soutenus. La solidarité, le soutien, le plaidoyer d'Amnesty et de ses membres nous ont incités à nous battre pour la libération de Weza et nous leur sommes très reconnaissants de leur appui. Nous sommes toujours indignés par la décision de justice des talibans et par les 7 mois de liberté que Matuila a perdu, mais nous continuerons de défendre les droits des filles à l'éducation en Afghanistan. » L'enseignante d'université, Fireh Bekele, a été libérée après avoir passé 3 mois en détention pour son rôle présumé dans la rédaction et la publication d'un livre intitulé « The Hijacker Revolution ». Fireh Bekele était un prisonnier d'opinion qui n'aurait jamais dû être incarcéré. Le chef de la commission éthiopienne des droits humains a rendu visite à Bekele en prison et a appelé à sa libération immédiate à la suite de l'action urgente publiée par Amnesty International en septembre. En novembre, l'ordre de détention administrative visant Saja Kul, journaliste cachemiri, a été annulé à la suite des appels lancés par Amnesty International. Il a passé 22 mois en détention en vertu de la loi relative à la sécurité publique, texte draconien en vigueur dans l'état de Jammu et Cachemire. En novembre, après près de 7 longues années en détention arbitraire, la prisonnière d'opinion et ancienne sénatrice Leila de Lima a été remise en liberté provisoire. Un tribunal philippin a fait droit le 13 novembre à sa demande de libération sous caution dans la dernière affaire la visant pour trafic de stupéfiants. Amnesty International a salué cette décision positive et demandé que cette dernière affaire soit classée et que les responsables de sa détention arbitraire et autres violations de ses droits soient traduits en justice dans le cadre de procès équitables. Amnesty International travaille sur l'affaire de Leila de Lima depuis son arrestation en 2017, affirmant dans des déclarations nationales et internationales que les accusations portées contre elle sont forgées de toutes pièces. Voilà, donc vous voyez qu'en écrivant régulièrement des actions urgentes, hein, les membres d'Amnesty dans le mois écrivent plusieurs actions urgentes, on arrive à faire changer la vie des gens en positif. On va maintenant écouter une chanson de Jeanne Chéral qui reprend la chanson bien connue, Diego, libre dans sa tête.
Michel Berger.
De Michel Berger.
Voilà, et chanté par France Gall.
France Gall.
Actuellement. Sans effort.
chante et qui rit, je pense à lui. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort, peut-être.
Voilà, nous allons maintenant parler des victoires que nous avons obtenues dans le cadre de la justice et de l'obligation de rendre des comptes. En juin, la Suisse a modifié sa loi sur le viol pour y intégrer une définition fondée sur le consentement. Et en juillet, la deuxième chambre, chambre basse du Parlement des Pays-Bas, a voté une modification de la loi relative aux délits sexuels, introduisant une définition du viol fondée sur le consentement. Cette loi devrait être définitivement adoptée après un vote du Sénat dans les 9 prochains mois. Ce sont de grandes victoires pour les militants et militantes, les victimes et celles et ceux qui les soutiennent, ainsi que pour notre campagne « Parlons du oui » et notre travail de plaidoyer à ce sujet dans la région. En juin, l'Assemblée générale des Nations unies a créé une institution internationale indépendante chargée de faire la lumière sur le sort des dizaines de milliers de personnes portées disparues et soumise à une disparition forcée en Syrie. Elle offrira une voie unique pour enregistrer les cas et permettra aux familles d'obtenir les réponses tant attendues sur le sort de leurs proches. Amnesty International a soutenu les familles et victimes syriennes qui ont joué un rôle moteur dans la création de cet organe en facilitant leur rencontre avec les États membres afin de les convaincre d'appuyer la création de l'institution. Au début de l'année, Amnesty International Afrique du Sud a été admise en tant qu'amicus curiae, c'est-à-dire consultant extraordinaire invité par le tribunal, afin d'apporter son éclairage et ses connaissances sur l'application d'une ordonnance déclaratoire demandant l'arrestation du président russe Vladimir Poutine s'il participait au sommet des dirigeants des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, organisé en Afrique du Sud. Avant que l'affaire ne soit portée devant les tribunaux, il a été annoncé que Vladimir Poutine ne participerait plus au sommet. Le tribunal a ensuite rendu une ordonnance demandant son arrestation s'il se présentait. Il s'agit d'une grande victoire pour la justice et l'obligation de rendre des comptes, et les efforts d'Amnesty International en matière de procédure judiciaire ont montré la puissance du mouvement. En août, après des années de travail de pression menées par Amnesty International Italie, le père Franco Reverberi a été extradé vers l'Argentine, où il sera enfin jugé pour des crimes contre l'humanité commis pendant la dictature militaire de 1976 à 1983. Afin d'éviter la détention, il est resté en Italie pour échapper à la justice argentine, profitant du système judiciaire italien pour refuser l'extradition. Amnesty International a joué un rôle clé s'agissant d'inclure la torture dans le code pénal italien. En octobre, Amnesty International a publié le rapport intitulé « Mon cœur saigne, la vie des personnes âgées face au conflit, au déplacement et à la détention dans le nord-est du Nigeria » en décembre 2020. Tout en montrant que les personnes âgées du pays sont touchées de manière disproportionnée par les conflits et systématiquement négligées par les équipes d'intervention humanitaire, elle a invité le Nigeria à ratifier le protocole visant à protéger les droits des personnes âgées. Grande victoire, le gouvernement nigérian a entendu son appel et ratifié ce protocole, étape vitale en vue de protéger pleinement les droits fondamentaux des personnes au Nigeria, des personnes âgées au Nigeria. On va maintenant écouter Emma Doma dans sa chanson « Tu seras ». continue sur Fréquence Mistral, la radio qui vous donne des bonnes nouvelles. Alors en octobre, Amnesty International a collaboré avec d'autres organisations pour faire pression sur le Conseil des droits de l'homme de l'ONU afin qu'il accorde la priorité à la lutte contre l'impunité au Soudan. Ainsi, le Conseil a adopté une résolution instaurant une mission internationale d'établissement des faits indépendante pour le Soudan. Elle est chargée d'enquêter et d'établir les faits, les circonstances et les causes profondes de toutes les violations présumées des droits humains et du droit international humanitaire, y compris commises à l'encontre des personnes réfugiées, ainsi que des crimes connexes dans le contexte du conflit armé actuel. Nous saluons une modeste victoire pour l'obligation de rendre des comptes au Soudan. En novembre, une mesure historique en faveur d'un système de coopération fiscale internationale plus équitable et plus inclusif, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution afin de commencer à élaborer une convention fiscale des Nations unies. Cela permettrait à tous les pays de participer à la politique mondiale en faveur en matière de fiscalité, tout en améliorant leur capacité à protéger et à défendre leurs droits dans ce domaine. Amnesty International est un membre actif de plusieurs coalitions de la société civile qui incitent les États à soutenir une politique fiscale mondiale plus juste et plus inclusive et va continuer de s'impliquer dans la mise en place de la Convention afin que davantage de ressources soient générées pour permettre aux États de respecter leurs obligations en matière de droits humains. Mission de recherche de mars 2023 à Siem Reap, Cambodge, où Amnesty International a jugé les expulsions volontaires des temples d'Angkor comme étant forcées. Le gouvernement affirme avoir besoin de déplacer les personnes pour préserver le statut du site comme patrimoine mondial. Le lendemain de sa publication, l'UNESCO s'est déclaré profondément préoccupé par les allégations d'Amnesty International et a reporté la date limite de la remise par les autorités cambodgiennes d'un rapport sur la conservation du site d'Angkor. Les autorités cambodgiennes ont refusé de reconnaître les expulsions forcées, mais ont invité Amnesty International à se rendre dans le pays pour discuter de la situation, invitation que nous avons acceptée. En novembre, la Lettonie a ratifié la Convention d'Istanbul, traité international visant à prévenir et à combattre les violences de toute nature à l'égard des femmes et des filles, l'aboutissement d'années de campagne menées par Amnesty International. Concernant les droits des personnes LGBTI, en septembre, le tribunal suprême de Hong Kong a accordé une victoire en demi-teinte au défenseur des droits des LGBTI, Jimmy Cham, qui demande depuis 2018 la reconnaissance de son mariage homosexuel célébré à l'étranger. Cette décision, qui fait suite à une campagne d'Amnesty International, est une avancée importante et un moment d'espoir pour la communauté LGBTI de Hong Kong, qui s'est longtemps vu refuser l'égalité des droits en raison des lois obsolètes et discriminatoires de la ville. Concernant les technologies, l'équipe technologie de surveillance d'Amnesty International, TEC, a collaboré avec le réseau médiatique européen Investigative Collaboration et publié deux rapports exposant la prolifération mondiale des technologies de surveillance et l'incapacité des gouvernements et de l'Union européenne à réglementer dûment ce secteur. L'enquête sur les Predator Files a mis en lumière l'alliance Intellexa et ses produits de surveillance, notamment son logiciel espion très intrusif Predator. Depuis sa publication, des experts de l'ONU et des députés européens ont réitéré les appels d'Amnesty International en faveur de compléments d'enquête, de contrôles plus stricts des exportations et d'une interdiction mondiale des logiciels espions hautement intrusifs. Les gouvernements nationaux ont pris des mesures afin d'enquêter sur Intellexa et d'établir des réglementations plus strictes sur l'utilisation et la prolifération des logiciels espions, tandis que les députés de l'Union européenne ont adopté une résolution critiquant l'absence de suivi des propositions du Parlement visant à limiter les abus de ces logiciels. Voilà, j'ai fait un peu le tour de tous les bons résultats que nous avons pu obtenir en 2023 grâce à la mobilisation de tous les membres d'Amnesty de par le monde et de tous les sympathisants qui ont signé les pétitions en ligne ou sur papier, qui ont répondu aux appels des groupes d'Amnesty. Donc n'hésitez pas, tout le monde peut agir, vous pouvez nous rejoindre, rejoindre un groupe ou simplement adhérer à Amnesty et agir de chez vous, en allant notamment signer les pétitions et puis vous renseigner. Vous avez sur les sites amnesty.fr, qui est le site d'Amnesty France, ou amnesty.org, qui est le site d'Amnesty International, Vous avez toutes les nouvelles, les renseignements, pays par pays ou par thème. Alors n'hésitez pas et venez nombreux nous rejoindre. On va terminer cette émission en vous souhaitant, avec Bourville, de la tendresse pour 2024.
Merci Régis, et on se retrouve le mois prochain, donc ce sera lundi 5 février. Bonne journée.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, non, non, non, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment, le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, long, long, long, le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, non, non, non, l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, non, non, non, on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Règne l'amour jusqu'à la fin des jours.